Alors, tournez avec moi, s'il vous plaît, dans le livre des Actes des Apôtres. J'aimerais ça vous demander, s'il vous plaît, de prier cette semaine. On a reçu hier un petit courriel de l'association. On a eu la nouvelle que des travaux d'agrandissement à l'aéroport à Montréal va occasionner ils vont démolir la chapelle. Et on a tout un ministère là-bas, d'aumônerie, avec John Malone. Et c'est pas une église en soi, mais vous savez, il y a bien des gens qui passent une partie de leur vie dans des aéroports et qui voyagent. Et c'est vraiment un bel endroit pour avoir un ministère spirituel. Les gens qui sont des gens d'affaires, tout ça, et puis des fois vivent toutes sortes de choses, puis ils transitent ou des choses comme ça. Et c'est vraiment une belle opportunité pour pouvoir annoncer l'Évangile. Puis avec les travaux d'agrandissement, ce qu'ils projettent, c'est de détruire la chapelle, tout ça, et de ne pas la reconstruire. Alors, c'est un sujet de prière très pratique, très concret, qui peut avoir tout un impact pour des gens sur les années à venir. Priez pour John Malone et priez pour que Dieu mette sa main sur les autorités de l'aéroport et qu'ils reconnaissent quand même l'importance d'avoir une place pour pouvoir exercer quelque chose comme ça, qui est vraiment un ministère spirituel où on peut annoncer l'Évangile. C'est bon? On va aller ensemble dans un mot de prière. Père éternel, tu as ressuscité ton Fils, Jésus-Christ, d'entre les morts. Son sacrifice a été honoré, Seigneur, par toi. Tu lui as redonné vie. Et Seigneur Jésus, tu règnes à présent. Tu es bien vivant, Seigneur. Par la foi, nous croyons, nous expérimentons, nous vivons, Seigneur. Ta gloire, ta majesté, à la droite du Père, tu sièges, Seigneur Jésus. Et tu nous as donné ton esprit. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ habite en nous. Et il nous donne vie, Seigneur. Je te prie, Père, à travers cette série que nous commençons. Je te prie, Seigneur Jésus, de parler à nos cœurs. Comme on vient de le chanter, viens rafraîchir notre foi, notre vision, Seigneur, que nous puissions voir l'avancement de ton royaume, l'annonce de cette bonne parole de l'Évangile, comme la vie véritable pour nous qui avons placé notre foi en toi, Seigneur. Et si nous nous sommes assoupis, si nous avons besoin d'être réveillés, que ton esprit vienne nous saisir et que cette puissance merveilleuse qu'on voit à travers le livre des Actes soit bien réelle dans nos vies personnelles, Seigneur. Aide-nous à vivre cette communion, cet amour qu'il y a au sein de l'Église dans ce livre, Seigneur. On voit cet amour que tu avais annoncé, Jésus, entre tes enfants, entre tes disciples. Et cela a un impact puissant, Seigneur. Cela vient appuyer l'annonce de ta parole d'une manière extraordinaire à travers tout ce livre, Seigneur. Je te prie de nous parler dans les prochains mois. De nous donner, Seigneur, cette joie de vivre une vie intense et vraie. Une vie chrétienne, là où est ton cœur, là où est ta passion, Seigneur. C'est en Jésus-Christ que je te le demande. Amen. Comme on l'a vu ce matin dans notre cours d'histoire, la vie chrétienne n'est pas une vie monastique. La vie chrétienne, c'est pas une vie de méditation où on est reclus, on est retiré de la société dans notre petite maison, dans notre salon, en train de lire notre Bible et puis de contempler le Dieu très haut, point final. Ça ressemble pas à ça, la vie chrétienne. La vie chrétienne ne sert pas non plus. Et ça, c'est un piège pour notre société, pour notre époque. La vie chrétienne ne sert pas à mettre de l'ordre dans ta vie. Ça, c'est un bénéfice de la foi en Jésus-Christ. Mais la vie chrétienne ne sert pas à mettre de l'ordre dans ma vie pour qu'après ça, mon passage sur terre devienne plus confortable. John Wesley avait observé cela. Chez ceux qui venaient donner leur vie à Jésus-Christ, des gens qui luttaient avec l'alcoolisme, avec toutes sortes de dépendances, la paresse, ils étaient lâches, ne construisaient pas sur la terre. Ont placé leur foi en Jésus. L'Évangile a eu un impact dans leur vie, c'est venu faire du ménage dans leur vie. Et à son plus grand désespoir, 20 ans plus tard, il a dit « Voici, je vous ai permis de vous bâtir de petits royaumes sur la terre. » L'Évangile ne sert pas à mettre de l'ordre dans notre vie. L'Évangile nous conduit là où est le cœur de Dieu. Et l'ordre qui vient avec, les péchés qui sont chassés, les idoles qui sont fracassées, la joie, la possibilité de bâtir des foyers, la possibilité d'instruire mes enfants dans la foi, ce sont des bénéfices de l'Évangile. Mais ce n'est pas le projet premier de Dieu. Son projet, c'est de se donner un peuple qui est passionné pour lui, qui est passionné pour aimer les hommes autour de lui. On commence ce matin une série dans le livre des Actes. Et ma prière, c'est la suivante. Ma prière, c'est qu'à travers ce livre, nous puissions saisir cette vie véritable qu'il y a là. Ça me frappe à travers les dernières années. J'observe certains d'entre vous, j'observe dans les églises. Parfois, je rencontre des chrétiens, jase avec, puis l'Évangile est entré dans leur vie, a commencé à faire du ménage, il y a des choses qui se sont placées. Vous savez, des fois, on est boqué, on résiste pendant un bout de temps, puis on laisse Dieu faire un certain ménage, mais il y a une partie de notre vie où on ne lui donnera pas parce qu'il y a certains plaisirs coupables qui sont là, qu'on veut garder pour nous. Puis à un moment donné, ces choses-là deviennent lourdes. Le péché est un esclavage extrêmement pesant. Puis l'Esprit de Dieu habite en toi, fait qu'à un certain moment, tu progressivement dis « Ok Seigneur, je vais te donner ça, ok Seigneur, je vais te donner ça ». Ce que vous avez écrit tout à l'heure sur votre feuille, cette idole, c'est peut-être justement un autre de ces morceaux qu'on laisse aller. Mais la joie de la vie chrétienne, se trouve au moment où tu dis « Seigneur, je veux que mon cœur soit là où est ton cœur, Seigneur ». La vie chrétienne et la joie de la vie chrétienne ne se trouvent pas en disant « Seigneur, j'ouvre la porte de cette pièce-ci, je te laisse rentrer ici faire un peu de ménage. On va voir pour les autres la semaine prochaine, l'année suivante, l'année d'après. » C'est pas comme ça que ça marche. Et des fois, je rencontre des chrétiens qui ont une vie de plus en plus ordonnée, de plus en plus confortable, et pourtant, ils ont de l'air totalement déprimés. Pourtant, ta vie est meilleure qu'avant. Ouais, mais je sais pas. C'est simple. La vie chrétienne ne sert pas à faire le ménage dans ta vie. L'Évangile ne sert pas à ça. L'Évangile sert à faire de nous des adorateurs en esprit et en vérité, passionnés pour Dieu, compatissants pour les hommes, en feu pour le cœur de la mission de Dieu. Et ma prière, c'est que le livre des Actes nous réveille, nous allume, et qu'à travers cette vie intense, vibrante qu'on trouve dans le livre des Actes, notre cœur s'enflamme pour cette mission de Dieu. La vie véritable se trouve là. Vous vous rappelez la vieille publicité de l'armée canadienne? Si tu veux vivre la vraie vie? Mais la vraie vie se trouve dans la mission, là où est le cœur de Dieu. Amen. C'est ma prière pour cette assemblée. Voyez-vous, dans le livre des Actes, on voit des gens qui rencontrent la parole. L'Évangile, souvent dans les Actes, c'est présenté comme la parole. La parole croît, la parole grandit, la parole est répandue. C'est le message de l'Évangile. On va voir ça ensemble dans les prochains mois. Mais ce qu'on voit dans le livre des Actes, c'est des gens qui rencontrent la parole, le message de l'Évangile. Puis l'Évangile pénètre leur cœur, boum, vient bouleverser leur vie. Littéralement. Puis ils se lèvent et passent aux actes. Ils passent à l'action, se lèvent, commencent à aimer les gens autour d'eux et annoncent la parole. Je me suis donné des objectifs. Qu'est-ce que je poursuis, moi, comme pasteur, à travers cette série-là? Quelle est ma prière à moi? Je vais chercher à exposer les Écritures fidèlement. Qu'est-ce que moi, j'attends de la part de Dieu à travers cette série? C'est que l'Église puisse saisir davantage le dynamisme et la joie qu'il y a dans cette vie chrétienne qu'on voit dans le livre des Actes. Je demande aussi au Seigneur de pouvoir voir cette puissance du message de l'Évangile, que l'Église ait cette conviction que l'Évangile est une puissance qui traverse toutes les cultures, qui peut pénétrer le Québec et qui peut atteindre jusqu'aux extrémités de la terre, dépasser toute forme d'opposition, qu'elle soit des persécutions physiques, que ce soit des oppositions culturelles. L'Évangile s'adapte, entre et pénètre. Et c'est ça qu'on voit à travers le livre des Actes. Je demande au Seigneur de nous stimuler en nous engageant dans cette mission extraordinaire, que nous puissions saisir que nous venons à la suite du livre des Actes. La mission n'est pas terminée. Jusqu'aux extrémités de la terre. et qu'à la fin de ce livre, cette assemblée soit convaincue que notre appel, c'est d'entrer à la suite du livre des Actes. Que Luc nous ait tellement excités que nous disions, voilà la vie que je veux vivre. Être là où est ton cœur et prendre la relève à la suite du livre des Actes. Voici ce que je demande à Dieu à travers cette série. Ce matin, je fais une introduction. C'est pas tellement habituel comme forme de prédication. Vous allez voir, je fais un survol du livre des Actes. J'ai décidé de vous donner un plan, une compréhension globale du livre, des thèmes majeurs du livre. C'est pour ça que vous avez aussi un inséré. Vous pouvez voir justement les points majeurs. Vous avez ça à l'intérieur du dépliant ce matin. Mais je veux donner une perspective. Et puis la semaine prochaine, on commence, on va voir ensemble les 14 premiers versets. Alors, quelques mentions. Vous allez voir, ça va peut-être être un petit peu plus didactique ou pédagogique ce matin. C'est volontaire, je veux nous donner un plan et vous donner le goût de vous lancer dans cette lecture, cette méditation, que vous puissiez attendre avec moi cette œuvre de la part de Dieu dans vos cœurs. Première chose à mentionner, évidemment, c'est que je commence tout croche, n'est-ce pas? Parce que je commence avec le tome 2 sans avoir fait le tome 1 avec vous. C'est quoi le tome 1? L'Évangile de Luc, d'accord? Mais comme on venait de terminer l'Évangile de Matthieu il y a un an, je me suis dit, ah, l'Église va me pardonner ça. On fera pas tout l'Évangile de Luc avant d'arriver aux Actes, d'accord? Mais c'est important que vous le saisissiez et j'aimerais vous encourager, ceux qui ont une certaine facilité, avoir une belle discipline pour lire, de prendre le temps de lire l'Évangile de Luc. Parce que vous allez voir des thèmes qui sont là dans l'Évangile de Luc et qui reviennent dans le livre des Actes. Dans la vision de Luc, c'est véritablement une continuité qui est en train de se produire ici. Alors, regardez juste un instant avec moi l'Évangile de Luc, chapitre 1. Je vais vous lire les 4 premiers versets. Luc 1, 1 à 4. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, ben plusieurs, au moins 3 autres, hein? On a 3 autres évangiles. Suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été témoins oculaires, ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Théophile était possiblement... En anglais, on appelle ça un patron, probablement un protecteur, possiblement quelqu'un qui pourvoyait la mission, un riche. Et Luc a décidé de prendre ça. On adressait habituellement, souvent, nos écrits à l'empereur, à un protecteur, et possiblement que c'était ça, chrétien qui avait adhéré à la foi. Tournez avec moi maintenant dans le livre des Actes, et je vais vous lire simplement les 2 premiers versets à ce point-ci. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Alors, le livre des Actes, c'est le tome 2 de 2 ouvrages, le volume 2, et c'est la suite de l'Évangile selon Luc. En fait, si vous preniez le temps de lire le dernier chapitre de l'Évangile de Luc, pour après ça commencer le livre des Actes, vous verriez même que le livre des Actes commence un peu comme lorsqu'on suit une télésérie à la télévision, vous savez. Puis on arrive à la semaine suivante, puis dans l'épisode précédent, nous avons vu... Banana. Puis ça commence comme ça. Il fait une espèce de résumé, de récapitulatif, là où on a laissé le récit dans le livre de Luc, dans l'Évangile selon Luc. Et puis il reprend l'histoire à partir de ce moment-là. Luc était un proche des apôtres, spécialement de l'apôtre Paul. On va le voir dans Actes, il va voyager. Soyez attentifs aux pronoms personnels lorsque vous lisez le livre des Actes pour savoir simplement est-ce que Luc est avec eux, il n'est pas avec eux. Oups, OK, il les a laissés pour un petit bout du voyage, il retourne avec eux. Alors, Luc va être très, très proche de l'apôtre Paul qu'il va accompagner dans ses voyages missionnaires. Luc est un brillant historien. C'est un historien respecté, d'accord? Lorsque les gens, chrétiens et non chrétiens, étudient les textes anciens et arrivent aux écrits de Luc, il est respecté dans son travail, il est méticuleux. Il nous donne beaucoup d'informations sur la culture, aide à placer des moments historiques qui ont pu être contre-vérifiés après avec des découvertes archéologiques. Et donc, Luc est un excellent historien, précis, soigné dans son travail. J'aimerais ça vous encourager à prendre le temps de lire le livre des Actes, d'accord? À la fin, tout à l'heure, je vais vous recommander d'autres lectures, tout ça. Si vous avez juste un livre à lire, c'est les Actes. Ça prend à peu près 3 heures lire le livre au complet, d'accord? Alors, j'aimerais ça vous encourager cette semaine à vous trouver un petit trou, un petit bloc, et simplement passer à travers les Actes. Allez prendre un café chez Starbucks, mettez-vous de la bonne musique dans les oreilles, puis commencez à lire, c'est bon? Vous passez à travers le livre des Actes parce qu'il y a des thèmes que vous allez déjà voir apparaître, que je vais vous présenter tout à l'heure et qu'on va développer à travers la série. Il y a vraiment des thèmes précis à travers ce livre-là. Il est plus facile à suivre dans sa théologie, dans ses doctrines, par exemple, que l'évangile de Jean. Jean, tu as l'impression qu'il tourne en rond tout le temps, même lorsque tu lis ses lettres. Luc est beaucoup plus facile à suivre et il y a des thèmes qu'il va développer qui vont revenir à travers tout le livre des Actes. Toutefois, si vous n'êtes pas des grands lecteurs, puis 3 heures, vous dites, c'est impossible, Yannick. Lisez les 14 premiers versets. C'est bon? Chapitre 1. D'accord? Juste pour vous donner de l'avance, on va les lire tout de suite. Puis vous pourrez les relire. D'accord? Mais de semaine en semaine, on va vous annoncer dans quel passage on est rendu la semaine prochaine. J'aimerais vous encourager à le lire, à prendre des notes. Si vous avez la possibilité, lisez-le quelques fois. C'est ça que je fais hein, quand je prépare une prédication. Première étape, lire. Jusqu'à temps que, oups, les choses commencent à se placer, tu commences à comprendre où est-ce qu'il s'en va. Avant d'aller voir des commentaires, avant d'aller voir quoi que ce soit d'autre, lire le texte. Alors, je vous encourage à le faire et à le faire assidûment à travers toute la série. Mais laissez-moi vous lire déjà, simplement pour se donner un avant-goût du livre, les 14 premiers versets. Je m'excuse. J'ai besoin de mon infirmière. Merci. Ouais, tu ne l'auras pas, chérie. Acte 1, 1 à 14. Vous allez voir, c'est l'introduction. La semaine prochaine, on va plonger dans cette portion-là. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, c'est-à-dire on parle de la croix, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves. Vous voyez déjà l'historien là, qui veut défendre. Se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. « Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? » Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Même s'il y en a qui font des millions avec des annonces comme ça. Hein? On a vu ça l'année dernière. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé. Pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. C'est la parole de Dieu. Alors, lisez ça cette semaine, préparez-vous tranquillement pour la semaine prochaine, et puis on va commencer à plonger dans ce livre-là. On va afficher ici un plan dynamique. Je veux juste vous donner une idée, un plan, comment est-ce que le livre se développe. Puis déjà, vous allez voir apparaître un des thèmes importants du livre des Actes, simplement à travers ce plan-là. Parce qu'il y a un mouvement dans ce livre-là. Un des personnages, si je peux dire comme ça, principal du livre des Actes, c'est la parole, c'est le message de l'Évangile. C'est pas une personne, on s'entend. Mais on suit à travers le livre des Actes le cheminement, le processus et vraiment l'évolution de ce message. Alors, le livre commence avec une introduction, je viens juste de la lire, les 14 premiers versets. Puis ensuite de ça, on va voir comment la parole prospère, s'étend, a un impact à Jérusalem. À travers des persécutions, la parole va sortir de Jérusalem. Et on commence le mouvement missionnaire à ce moment-là. La parole va faire une avancée, une percée en Judée, puis en Syrie. C'est les chapitres 9 à 12. La parole va se rendre jusqu'à Chypre et en Asie mineure. Et puis la parole va pénétrer jusqu'à l'Europe. Ensuite de ça, il y a un moment à Éphèse où il y a comme une pause et on voit l'impact que l'Évangile peut avoir dans une région donnée. Les chapitres 18 à 20. Et enfin, comme une espèce de récapitulatif à travers la vie de Paul, Paul retourne à Jérusalem et va partir de Jérusalem pour être conduit jusqu'à Rome. Et on voit encore ce mouvement où l'Évangile part de Jérusalem, se rend à Rome pour aller jusqu'aux extrémités de la terre. D'accord? C'est une espèce de plan. C'est le plan que Luc s'est donné. Et si je vous ai donné ces portions-là, c'est parce que quand vous allez arriver aux jonctions, au moment où on passe d'une section à l'autre, soyez attentifs, le narrateur fait un commentaire, une espèce de, comme je disais, un récapitulatif, puis là, il passe à la prochaine section. Je vous dis, Luc est plus facile à suivre que d'autres livres bibliques au niveau de sa structure. Mais je ne reviendrai pas sur tout ça, je reviendrai pas sur ces détails plus techniques, c'est simplement pour vous donner une idée. Voici comment je résumerai le message du livre des Actes. D'accord? Voici mon résumé du message du livre des Actes. Le livre des Actes des apôtres est une manifestation majestueuse de la résurrection de Jésus-Christ. Par la croissance de l'Évangile dans tout l'Empire romain, l'Évangile pénètre toute culture, traverse toutes les persécutions. Jésus-Christ est bien vivant, à la droite de son Père céleste, et bien présent par son esprit. Les chrétiens, ses témoins, se multiplient et annoncent l'Évangile et ont un témoignage frappant d'amour et d'intégrité. Ce n'est pas qu'un message, leur vie appuie ce message-là puissamment. Et tranquillement, à travers les prochains mois, on va voir ensemble ce message-là se développer. Ce matin, je vais vous résumer le livre des Actes en quatre points, c'est ça que vous avez dans vos notes, qui me semblent être les thèmes majeurs, d'accord, du livre des Actes. On pourrait dire l'Esprit, il y en a qui parlent des actes du Saint-Esprit. C'est vrai que le Saint-Esprit joue un rôle majeur, on va le voir ensemble. Mais j'ai essayé de résumer le livre en quatre points. Premièrement, ressuscité. Une des choses qui frappe lorsqu'on lit le livre, c'est que le livre des Actes commence avec l'ascension de Jésus, d'accord? On vient juste de le lire tout à l'heure, Jésus monte au ciel. Et donc là, on pourrait se dire, OK, Jésus est monté au ciel, on passe à autre chose. Et pourtant, Jésus est très, très présent à travers tout le livre. Bien qu'il est à la droite du Père, rappelez-vous cette promesse qu'il avait donnée. Il avait dit aux apôtres, « Vous trouvez que j'ai fait des choses extraordinaires. Attendez de voir ce que vous allez faire lorsque je vais vous donner mon esprit. » Et effectivement, la croissance de l'Évangile est énorme dans ce livre-là, beaucoup plus grande que pendant tout le ministère de Jésus. Alors, Jésus est au ciel, c'est vrai, il est monté au ciel, mais il est plus présent que jamais par son esprit, évidemment, acte 2, 33, élevé par la droite de Dieu, à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Pierre va dire ça. Alors, Jésus est présent par son esprit, c'est lui qui donne son esprit et par son esprit, il va être bien présent. C'est lui qui inspire ceux qui annoncent la parole, ceux qui annoncent l'Évangile. Dans Actes 7, 55-56, on lit au moment du meurtre d'Étienne, si vous êtes familier avec le récit, rappelez-vous qui Étienne a vu? qui a inspiré Étienne. On lit dans Actes 7, 55, « Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Alors Jésus se manifeste. Se manifeste à Étienne, se manifeste à Paul. Jésus est même visible alors qu'il est pourtant à la droite du Père. Il est dans les cieux et pourtant Jésus est présent, visible. C'est lui qui appelle et qui envoie des missionnaires. Il apparaît à Paul. Il se manifeste à Paul. C'est lui qui va lui dire, « Tu vas souffrir pour mon nom. » Jésus guérit le malade. On lit dans Actes 9:34, Pierre lui dit, « Aîné, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et arrange ton lit. » Et aussitôt il se leva. Voyez-vous, Jésus demeure présent à travers tout le livre des Actes, même s'il est à la droite du Père, parce qu'il a envoyé son Esprit. Et selon moi, le personnage principal du livre des Actes, c'est Jésus-Christ, Jésus-Christ ressuscité. Et je vais insister sur ça dans son message, cette résurrection. Dieu demeure un personnage extrêmement important à travers tout le livre. Et même si Jésus a donné un mandat à ses disciples d'aller d'annoncer le message, nous voyons la souveraineté de Dieu tout au long. D'accord? Dieu n'est pas absent. C'est pas juste les hommes. Et si l'Évangile se répand, c'est parce qu'il est là, c'est parce que le Seigneur agit. Donc, on voit sa souveraineté, sa présence aussi à travers le fait qu'il va disposer des cœurs. Il va appeler des gens. Et ceux qui ont été élus vont être sauvés. Donc, il demeure toujours présent. C'est un des messages à retenir du livre des Actes. Il est présent actuellement dans ce champ de mission où nous sommes au Québec. Il est présent actuellement lorsque vous allez au travail. Il est présent de la même manière qu'il était présent dans le livre des Actes. On lit dans Actes 16-14, « L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre, de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Voyez-vous, il est encore en train d'agir à ce moment-là. Et plus tard, il va dire à Paul, le Seigneur dit à Paul dans Actes 18:9, en vision pendant la nuit, ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. « Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Le Seigneur est souverain à travers le livre des Actes. Il est présent et il agit, bien vivant au milieu de la mission qu'il a confiée à ses disciples. Et évidemment, tout ceci se fait principalement par son Esprit qu'il nous a donné. L'Esprit de Dieu est appelé aussi ailleurs l'Esprit de Christ. D'accord? Et donc, lorsque Jésus a donné cette promesse dans Matthieu 28, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est principalement par son Esprit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est une pensée humaine, compréhensible pour un chrétien de dire « Seigneur, j'aimerais ça que tu sois ici. » C'est une pensée fausse. C'est humain. Je veux dire, moi aussi, il y a des moments, tu sais, « Seigneur, ça ne te tente pas, je te passe le micro, c'est toi qui... Ce matin, je vais rester assis, tu ne viendrais pas enseigner? » C'est une pensée fausse. D'estimer que Jésus-Christ n'est pas présent au milieu de nous. Il l'est par son Esprit, il est par sa toute-puissance et il agit et œuvre au milieu de nous. Et ça va être ainsi jusqu'à ce qu'il revienne, jusqu'à son retour. Il va être bien présent, même s'il est à la droite du Père. Alors, ressuscité, Jésus-Christ est ressuscité et cette résurrection, cette puissance est manifeste, il est bien présent. Deuxièmement, le message. Quel est le message du livre des Actes? La vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. À travers le livre des Actes, on trouve 10 sermons à peu près complets. C'est beaucoup ça. Quand vous vous demandez comment on devrait annoncer l'Évangile, allez lire les Actes. 10 sermons à peu près complets dans le livre des Actes, d'accord? Une trentaine de résumés de prédications de l'Évangile. Une trentaine de fois, on a un ou deux versets qui nous résument le message qui est apporté. Alors, on va dans les Actes pour savoir quel est le message que l'Église annonçait à l'époque. Et quel est ce message? La vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Maintenant, il y a quelque chose de paradoxal. Si vous avez déjà lu quelquefois les Actes, essayez de vous rappeler des moments où les apôtres s'étirent sur la vie de Jésus. Vous savez, lorsqu'on lit des biographies, lorsqu'on veut parler de quelqu'un, on va parler de quoi? On va parler de sa vie, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a accompli, tout ça. Puis Jésus a fait des choses extraordinaires, les évangiles nous racontent tout ça. Mais essayez de vous rappeler les prédications dans le livre des Actes. Est-ce qu'il y a une insistance de la part des prédicateurs sur la vie de Jésus? Il s'assure qu'on saisisse que c'est bien un homme qui a vécu, d'où il vient. Il a vécu au milieu de nous. Il est vrai, là. C'est pas un personnage qu'on a imaginé. C'est quelqu'un qui a vécu dans l'histoire. Mais ce qui préoccupe les prédicateurs dans le livre des Actes, c'est la mort de Jésus-Christ et particulièrement sa résurrection. Et les prédicateurs n'ont aucune honte de parler de sa mort. C'est rare dans une biographie que le highlight, le moment fort de la vie de quelqu'un, c'est sa mort. Et il s'éteint à l'âge de 99 ans. Mais avec la mort de Jésus, la vie commence. Avec la mort de Jésus, la vie commence pour l'Église, pour vous, pour moi. Avec la mort de Jésus vient la résurrection. Le livre des Actes est écrit. Alors, l'accent de la prédication, le message qui est apporté par l'Église à l'époque, c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et sans aucune gêne, ils vont dire aux Juifs, « C'est vous qui l'avez tué. C'est vous qui l'avez rejeté. Les hommes l'ont méprisé. » Vous savez, des fois, on essaie d'adapter le message à notre époque, puis on se dit, « Faut pas trop froisser, faut pas trop choquer. Les gars sont vraiment mal partis. » Non, mais ils se sont plantés royalement. Ils auraient pu dire au moins... Tu sais, soyez vrai, l'histoire, c'est les Romains qui l'ont faite, c'est pas nous. Oui, mais c'est vous qui l'avez rejeté. Et vous l'avez crucifié. Vous l'avez livré entre les mains des païens. Et l'accent principal dans le message des apôtres, c'est la résurrection de Jésus-Christ. C'est vraiment intéressant de remarquer que jamais les apôtres ne prennent le temps de défendre la résurrection de Jésus. Quand vous lirez là, cette semaine à travers les Actes puis dans les prochains mois, vous remarquerez qu'ils prennent pour acquis que c'est un fait reconnu par tous. Ils savaient qu'il y avait tellement de témoins qu'ils ne prenaient pas le temps de consacrer des heures à défendre l'historicité de la résurrection. Est-ce qu'on a eu assez de témoins? Est-ce qu'on peut le prouver? Tout ça. Prenez ça pour acquis, ils annonçaient ça. Alors le message du livre des Actes, c'est Jésus-Christ, mort et ressuscité. Constamment, c'est leur message. Je vous lis deux versets, trois versets, juste pour résumer. Dans Actes 4, 33, voici ce qu'on lit. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Jésus est celui qui sauve l'être humain de ses péchés. Actes 13, 39. Et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. C'est la foi en Jésus qui procure la justice de l'âme, qui rend l'homme juste devant Dieu, qui rend l'homme propre à entrer dans la présence de Dieu. Acte 15, 11. Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. Et on pourrait résumer le message du livre des Actes à ceci. Repentez-vous, croyez, soyez baptisés. Constamment. Alors, notre message devrait être ça. Repends-toi, parce que tu es rebelle, tu es pécheur, et Dieu ne pourra pas t'admettre dans sa présence. Crois en Jésus-Christ seul pour le pardon de tes péchés et viens en témoigner publiquement en passant par les eaux du baptême. C'est leur message constamment. Repentez-vous, croyez, soyez baptisés. Voici le message du livre des Actes. Crois en quoi? Jésus-Christ mort et ressuscité d'entre les morts. Ressuscité, un message à travers tout le livre et un message qui va traverser toutes les cultures. C'est un des éléments forts du livre des Actes. Nous voyons un mouvement. Nous voyons un mouvement d'un message pour la nation, entre guillemets, qui va aller vers les nations. Il y a deux personnages principaux humains sur Terre à travers le livre. C'est qui? Pierre et Paul. Et lorsqu'on lit le livre des Actes, on voit ce mouvement où Pierre s'en va vers les Juifs, annonce, on voit la réaction de la majorité des Juifs, d'accord? La majorité des premiers chrétiens étaient des Juifs, mais la majorité des Juifs ont rejeté l'Évangile. Vous m'avez suivi? Ouais? Non? OK. La majorité des chrétiens étaient des Juifs, mais la majorité des Juifs ont rejeté l'Évangile. Et donc, on assiste à ça dans le livre des Actes. Au début, c'est Pierre qui s'en va vers les Juifs. Les Juifs vont rejeter massivement l'Évangile et Dieu va susciter Paul. Pierre va faire une transition. Dieu va susciter Paul qui va aller vers les païens. Et donc, nous voyons ce mouvement-là où on a un message qui était là pour la nation, le peuple de Dieu qui va être envoyé vers les nations qui va devenir le peuple de Dieu. Il y a vraiment ce mouvement. Et donc, le message va passer de Jérusalem à Rome. Et c'est superbe de voir ça. On lit le livre et on voit que l'Évangile peut pénétrer toutes les cultures. Pensez à la manière que Paul s'adresse lorsqu'il parle aux Juifs, à Pierre lorsqu'il s'adresse et parle aux Juifs. Puis ensuite de ça, lorsque Paul va aller s'adresser à Athènes, aux païens. On voit cette capacité de l'Évangile de venir s'adresser à toutes les cultures, pénétrer toutes les cultures. Et on le voit encore aujourd'hui. C'est une réalité que l'histoire de l'Église est venue confirmer et que notre époque confirme encore. L'Évangile entre et s'adapte sans se perdre, même si souvent on l'a vu se diluer. On n'a pas besoin de diluer l'Évangile pour qu'elle puisse pénétrer toutes les cultures. Le message de l'Évangile, c'est que Dieu aime les hommes. Les hommes sont rebelles, ils sont pécheurs. Et Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir sur la croix à notre place, afin que nous puissions être réconciliés avec Dieu. Il a ressuscité d'entre les morts afin que nous puissions être justifiés. Ce message-là peut se rendre partout. Amen. Et aujourd'hui, on assiste à ça un peu partout sur la terre. Nous, on vit en Occident, puis on a l'impression que le christianisme est en recul sur la terre. Oubliez ça. Oubliez ça. Oui, le christianisme semble être en recul en Occident. Méprisé, rejeté, c'est vrai. Allez vous promener en Amérique latine, allez vous promener en Afrique, allez vous promener en Asie. Tout à l'heure, je vais vous parler d'un outil pratique pour voir ça et pour prier pour ça. L'Évangile se répand à travers toutes les cultures. Je suis en train d'écouter ou de lire actuellement l'histoire de Jim Elliot. Et Jim Elliot est un homme qui est allé pour annoncer l'Évangile à des gens qui étaient cannibales, qui tuaient les peuplades autour d'eux. Et Jim a été tué. Les gars qui étaient avec lui, ils étaient trois hommes. Et donc, l'Évangile est rentré en Équateur et on aurait pu croire que ça s'arrêtait là. Mais son épouse, Elizabeth Elliot, après le meurtre de son mari, a eu à cœur d'aller apporter l'Évangile à ce peuple-là qui avait tué son mari. C'est une histoire extraordinaire. Et l'Évangile va entrer dans cette culture-là, complètement isolée. J'étais en train de prier cette semaine pour l'Afghanistan. Et il y a des défis énormes là-bas. La population est à 99,7% musulmane. C'est extrêmement difficile d'arriver avec l'Évangile. Pourtant, l'Évangile va entrer là, comme elle l'a fait à travers l'histoire de l'Église. Et le livre des Actes est là pour nous convaincre de cette puissance et de cette capacité qu'a l'Évangile de pénétrer toutes les cultures, sans avoir à être dilué. Le message n'a pas à être dilué. Et l'Évangile peut pénétrer le Québec aussi. Il n'a pas besoin d'être dilué, il peut pénétrer le Québec aussi. Et c'est une des beautés qu'on voit à travers ce livre-là. C'est un message qui est pour toutes les cultures. Et enfin, en terminant, quatrième point, ce message-là est apporté par les témoins de la grâce. Ce message-là est apporté par les témoins de la grâce. On voit dans l'Église naissante qu'ils vont opérer des signes et des miracles. On va voir ensemble que Dieu est en train d'appuyer vraiment le message de cette Église naissante. Mais on voit aussi une vie vibrante et généreuse. Les chrétiens ont une vie qui appuie leur message. Pensez à Jérusalem au tout début. Lorsque les gens se convertissaient, les gens autour ne pouvaient faire autrement que de dire « Waouh, ces gens-là s'aiment, ils prennent soin les uns des autres. » C'était une contre-culture à l'intérieur de la culture même. Au sein d'Israël, à Jérusalem, parce que l'amour de Christ était venu les transformer, ils vivaient autrement. Et lorsqu'on suit le livre des Actes, on voit à travers ça qu'ils vont prendre soin des églises éloignées. Les chrétiens ne donnaient pas à l'époque seulement pour pourvoir à leur bâtiment, à leur lieu, il n'y en avait même pas de bâtiment, mais nourrir ceux qui prêchaient la parole chez eux. Ils entendaient parler d'une église pauvre à l'autre bout de la planète. S'il y en a, c'est aujourd'hui à notre époque. Et ils pourvoyaient pour aider les gens de cette église pauvre à l'autre bout de la planète à manger. Ils avaient une vie vibrante, vraie, intègre. Lorsqu'on voulait faire d'eux des demi-dieux puis commencer à soulever une population, Paul apaise la foule. Calme une révolte, calme une émeute. Lorsque Dieu vient le libérer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se porter au secours du geôlier. Non, mais c'était le temps de te pousser, mon homme. Sauve-toi en courant. Non, il va rester là, puis il va dire, attends un peu, ta vie est en danger si on sort d'ici. Puis il prend le contrôle de la prison, il calme les prisonniers, puis il dit, attendez un petit peu, là. Voyez-vous, chaque fois que son intégrité à Paul a été attaquée, le témoignage qui a été rendu était un témoignage équivalent à celui que Pilate a livré par rapport à Jésus. Jésus a dit, je trouve rien de mal en lui. Mais toutes les autorités civiles qui ont examiné Paul pour l'accuser dans le livre des Actes lorsqu'il est prisonnier en viennent à la même conclusion. De quoi tu veux qu'on le condamne, ce gars-là? À part d'être un Jesus freak, on voit un homme bien. Ils avaient une vie qui était intègre, une vie qui était entière, et cela venait appuyer leur message. Les témoins de la grâce, on le voit au tout début du livre des Actes, progressivement opéraient des signes et des miracles, et Dieu venait appuyer cette église naissante. Ils avaient une vie vibrante, intègre, un beau témoignage de vie, de consécration, et troisièmement, ces témoins de la grâce annonçaient la parole, annonçaient la parole, annonçaient la parole. Constamment, c'est ce qu'il faisait. Jésus-Christ est ressuscité. Il est bien vivant dans ce livre-là. Et même s'il est à la droite du Père, on le voit, il est présent partout à travers le livre. Il intervient, il est en train de bâtir son Église comme il l'a promis. Il leur a donné un message, et ce message-là, c'est le Christ mort et ressuscité. Et tous les hommes sont appelés à se repentir, à croire et à être baptisés au nom de Jésus-Christ. Et ce message-là peut s'adapter et traverser toutes les cultures sans jamais avoir à être dilué. Et on le voit à travers les Actes, il part de Jérusalem pour se rendre jusqu'à Rome, comme un mouvement que Luc nous donne pour nous dire, « OK, prenez la relève, les boys, jusqu'aux extrémités de la terre maintenant. » Et enfin, ce message-là est porté par les témoins de la grâce. Chacun d'entre nous qui avons été, excusez-moi l'anglicisme, impactés par l'Évangile, percuté par ce message-là. Parce qu'on était graciés. Nous sommes appelés à nous lever, à vivre une vie intègre, dynamique, vibrante et à annoncer la parole, le message de l'Évangile. Je vous relis mon résumé du livre des Actes. Le livre des Actes des apôtres est une manifestation majestueuse de la résurrection de Jésus-Christ. Par la croissance de l'Évangile dans tout l'Empire romain. L'Évangile pénètre toute culture, traverse toutes les persécutions, toutes les oppositions. Jésus-Christ est bien vivant à la droite de son Père et bien présent par son Esprit. Les chrétiens, ses témoins, se multiplient. Ils annoncent l'Évangile et ont un témoignage frappant d'amour, d'intégrité et de générosité. Et aujourd'hui, à ce jour, la mission demeure immense. Et c'est là que se trouve la vraie vie chrétienne, quand ton cœur bat au rythme du cœur de Dieu et que tu vis à adorer, à servir ton Dieu et à aimer ton prochain, à lui annoncer l'Évangile de Jésus-Christ. Et je prie que ce livre vienne nous brasser, mes amis, vienne nous donner le goût de cette vie entière, arrêter de regarder à nos petites bébites, nos petits problèmes, nos défis personnels. Ils sont là, on les amène au Seigneur dans la prière constamment, quotidiennement, mais à se réjouir de ce que Dieu est en train de faire et de ce que Dieu va faire à travers nous. Ici, dans la terre où il nous a placés, et avec les missionnaires qu'il va susciter du milieu de nous, qu'il va envoyer aux quatre coins du Québec, du Canada, mais de la terre entière. J'aimerais ça vous suggérer quelques outils pratiques, concrets. Il y a un livre qui est excellent, malheureusement juste en anglais, alors vous êtes obligé de lire ensemble à quelques-uns, de prier ensemble, de partager ensemble. Ça s'appelle Operation World. C'est 7e édition, d'accord? Mais c'est un ouvrage extraordinaire pour prier pour la mission. Mais si vous décidez de vous en servir, c'est premièrement vous qui allez être transformé, puis ensuite de ça, vous allez commencer à prier pour de vrai pour la mission. Cet ouvrage-là couvre à peu près toute la Terre. vous donne de l'information. Alors, c'est un plan de prière. Ça vous donne de l'information démographique, sociopolitique, géographique, les enjeux économiques de chacun des pays pour lesquels ils vont nous demander de prier. Hier, avant-hier, je priais pour l'Afghanistan. Et j'ai eu toute cette information-là qui me donne un bon portrait des besoins et de la réalité très à jour. Très, très, très à jour. D'accord? On est Afghanistan, actualité, on est là-dedans. Là. C'était très bien décrit. Et ensuite de ça, il nous donne des actions de grâce. Qu'est-ce que Dieu a fait dans les dernières années dans ce pays-là? Et enfin, des requêtes de prière. Des requêtes pour la réalité de ces gens-là. Prier pour leur situation de pauvreté, leur situation sociale, leur situation économique, leur situation sociopolitique. Mais aussi prier pour la foi, pour l'Évangile, pour que l'Évangile puisse pénétrer ce pays-là. Alors, j'aimerais ça vous encourager de considérer d'aller sur le site d'Operation World, vous commander ça. Peut-être dans les petits groupes, je l'ai fait comme une suggestion. Je sais que c'est pas tout le monde qui est bilingue. Dans le petit groupe, il y a une personne qui dit « Moi, je lis ça, puis chaque semaine, je vous présente un pays et on va dans la prière pour ce pays-là. » C'est très concret, c'est extrêmement stimulant. Et vous savez quoi? Ça nous donne un peu le sentiment du livre des Actes. Dieu est puissant, il est à l'œuvre actuellement sur la terre. C'est pas juste des histoires du passé, parce que Dieu est vivant et Christ est vivant actuellement. Ça, c'est une suggestion que je vous fais. Une autre suggestion, encore en anglais, celle-là, un livre pour vous faire brasser par un pasteur d'une des églises qui croit le plus rapidement aux États-Unis actuellement. Alors, vous avez son style dimanche matin en bas, puis vous avez son style église cachée en haut. Alors, c'est David Platt. On était censé l'avoir avec nous à Solar. Dieu voulant, on va l'avoir à un moment donné au Québec. On travaille là-dessus. Il a écrit un livre qui s'appelle « Radical ». Si ça vous tente de rester assis confortablement dans votre lazy boy spirituel à vous, dorer la pilule devant la télé, prenez pas ce livre-là. Prenez pas ça. Mais si ça vous tente d'être heureux, par exemple, si ça vous tente d'être heureux, je ne vous donnerai pas de pensée positive, je vais vous donner la vie radicale de Jésus-Christ, si vous voulez être heureux, et des disciples de Jésus-Christ. C'est un excellent ouvrage. D'accord? Il va vous provoquer, il va vous faire réfléchir, il va vous challenger, comme dirait Michel, qui l'a lu avec son épouse Catherine, puis on dit « OK, Yannick, on met encore des affaires en ordre. » Parce qu'on a été mis au défi. Je suis un petit peu désolé de vous proposer deux ressources anglaises. Maintenant, je vous ferai remarquer que je vous ai proposé aussi une ressource française. Le livre des Actes, qui est toujours la meilleure lecture à faire, d'accord? C'est une bonne lecture francophone. Commencez avec ça. Ça devrait bouleverser quelque chose dans vos vies. On va aller ensemble dans la prière. Seigneur notre Dieu, merci pour ta présence. Jésus, tu es vivant, tu es ressuscité d'entre les morts. Tu règnes, tu es à la droite de ton Père et pourtant présent actuellement sur la terre, au milieu de nous, Seigneur. Et Seigneur, tu nous as appelés à être tes témoins ici, mais jusqu'aux extrémités de la terre, à te consacrer nos vies, à nous consacrer à ton service, Seigneur. Seigneur, tu nous as donné ton esprit pour que nous ayons une vie vibrante, réelle. Tu nous as donné ton message pour que nous puissions l'apporter, Seigneur. Je veux te bénir pour tout ce que tu as accompli déjà depuis ces milliers d'années, Seigneur, comment l'Évangile s'est répandu sur la terre et est venu construire, réparer, rebâtir des vies brisées, faire des adorateurs de Dieu, de Jésus-Christ partout sur la terre. Et je te remercie, Seigneur, pour cette période excitante où nous pouvons participer nous-mêmes dans la prière, participer nous-mêmes par des vies consacrées, participer nous-mêmes en apportant ce message ici au Québec. Mais certains d'entre nous, par ta grâce, seront appelés à partir d'ici, à partir comme Hugo, comme les Baskounan, Seigneur, à partir comme Mélodie, à aller annoncer l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre, Seigneur. Viens nous parler dans les prochaines semaines, les prochains mois. Seigneur, viens nous faire sortir de cette torpeur. Et si nous avons cru que l'Évangile servait à faire du ménage dans nos vies, à s'installer confortablement, vivre dans cette condition plus confortable de Nord-Américain, oh, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, parce que cette vie est amère et hors de sens. C'est une vie de confort, d'inquiétude et de plaisir en attendant la mort, Seigneur. Mais la vie véritable se trouve là où est ton cœur. Et donne-nous ton cœur, Seigneur Jésus, parce que ton esprit habite en nous. Et si quelques-uns au milieu de nous ne te connaissent pas, Seigneur, bien nous voulons annoncer dans cette église Jésus-Christ. Jésus-Christ mort et ressuscité. Jésus-Christ, le salut des hommes. Jésus-Christ, le sauveur des nations. Et viens leur donner, Seigneur, à travers les prochains mois, de te rencontrer, Jésus. Que ton nom soit béni. Amen. Thank you.